Donc voilà, effectivement, nous continuons sur cette série que nous avons initiée là depuis la rentrée, qui est sur le réveil. Le réveil personnel, le réveil d'église. Et je dois dire, je suis personnellement assez encouragé, même très encouragé, on va dire, mâchons pas les mots, déjà par mon étude personnelle de ce sujet, et aussi par les différents contacts, les différents clins d'œil de la part du Seigneur vis-à-vis de ce sujet, depuis que cette réflexion a commencé à germer dans mon esprit, dans mon cœur, en août, dans les discussions après avec plusieurs, ça s'est confirmé dans les lectures, dans plein de choses, dans des retours aussi, des messages qui ont été faits ici déjà, y compris avec Robert Ferretti la dernière fois. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une soif, hein, une soif d'avancer, hein, une soif personnelle de plusieurs, de Dieu. Et voilà, c'est très encourageant. Je vous parlais la dernière fois d'une avalanche, vous vous souvenez peut-être, hein, que l'avalanche, voilà, ça commence par des boules de neige, et il me semble qu'il y a plusieurs boules de neige là qui sont en train de se mettre un petit peu en route. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager à faire boule de neige ensemble. Alors, aujourd'hui, je voulais vous poser la question, donc déjà aux jeunes, hein, qui sont là, dans cette salle, est-ce que vous aimez les cours d'histoire? Non, Dylan, je suis sûr que tu aimes l'histoire, non? Ouais, moi aussi j'aime assez bien l'histoire. Ceux qui sont un peu moins jeunes, qui ont plus de cours d'histoire, est-ce que vous avez aimé les cours d'histoire à l'école? Ouais, quand même, quelques-uns. Alors je vous pose la question parce que la parole de Dieu, donc la Bible, elle nous encourage à se souvenir. Hein. Il y a tout un livre qui est consacré aux souvenirs, enfin il y en a plusieurs, mais disons il y a un livre qui axe vraiment son message dans le fait de se souvenir. Hein. Par exemple dans le Deutéronome, hein, je pense surtout au Deutéronome, il y a ce verset, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire ». Et il s'adresse à une génération, c'est la génération, vous savez, du peuple qui arrive aux portes de Canaan, hein, du pays promis, ils sont sortis d'Égypte. Et puis il y avait toute une génération qui avait précédé, les parents, ils avaient vu les miracles de Dieu, les plaies en Égypte, l'ouverture de la mer, la manne dans le désert. Enfin, ceux-là aussi, ils avaient vu la manne dans le désert. Mais bon, il y avait tout un tas de choses que cette nouvelle génération n'avait pas vécu, hein, parce que l'autre génération était morte dans le désert. Et Dieu dit, souviens-toi. Donc il y a l'idée de la transmission, même si on ne l'a pas vécu, de se souvenir de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Et puis, nous ici, chrétiens à Maigné, en 2015, bientôt 2016, dans quelques mois, j'aimerais aussi qu'on puisse s'encourager à aussi se dire, on n'est pas une génération spontanée. Hein. Souvent, les évangéliques, ils ont l'impression, voilà, tac, ils sont apparus comme ça au XXe siècle. Et au fait, de faire un petit retour en arrière. Et donc, dans ce petit retour en arrière, si je vous propose de remonter le temps maintenant. Et je vous propose de remonter il y a 100 ans. Qu'est-ce qui se passait il y a 100 ans? Donc on passe de 2015 à 1915, 1910, enfin dans les années 1910. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un sait? La guerre. Il y a la guerre. Je ne pensais pas à ça. Mais... d'un point de vue spirituel, donc c'était temporel, on va dire. Il y a eu un réveil. Réveil en Suisse romande. OK? Donc, c'était qui, notamment, ces hommes de réveil, là? Il y a eu Albin Perron, un commissaire Albin Perron, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, de l'Armée du Salut, suivi d'assez près de Hugues-Édouard Alexander. Ils ont été partout en Suisse romande, quasiment, et ils ont fait des missions, ils appelaient ça des missions, et ils annonçaient la parole de Dieu. Est-ce que certains connaissent le Loc, là, ici? Donc les Locs, c'est une petite bourgade. Ah oui, il y en a qui sont même de la région, là, à Jean-Pierre. Pas très loin, en tout cas. Bon, le Loc, c'est, voilà, c'est pas forcément un haut lieu touristique. Hein, c'est plutôt une petite cuvette, comme ça, avec...
C'est classé à l'UNESCO.
Ah oui, classé à l'UNESCO quand même. Ah oui. Donc, donc voilà, c'est près de Neuchâtel, là-bas, à côté de la Chaux-de-Fonds. Et par exemple, il y a eu une campagne qui a duré le mois de juillet en 1913, tout le mois de juillet. Donc ils avaient installé une tente de 1200 places pour annoncer l'évangile. Et rapidement, ils se sont rendus compte que cette tente, elle était trop petite. Ils ont dû l'agrandir. Vous imaginez au Locle, peut-être il y a 5000 habitants, je ne sais pas, là-bas. En tout cas, à l'époque. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup plus. Et donc, 1200 places, c'était pas assez. Donc, l'évangile a été annoncé pendant un mois. Et ainsi de suite, hein, dans plusieurs des villages, il y avait une soif de la parole. Et Hugues-Édouard Alexander, ensuite, son travail a donné naissance à l'Action biblique. Donc, l'Église... les églises Action biblique, entre autres. Donc ça, c'était il y a 100 ans. Hein, rappelons-nous de ça. Si on remonte encore le temps, il y a 200 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 200 ans? Donc nous sommes en 1800... Julie? Vas-y. Oui, c'est ça. Donc il y a historiquement, effectivement, hein, le canton de Genève et autre chose.
Waterloo.
Ouais, et au niveau spirituel, c'est bien, il y en a qui ont bien écouté les cours d'histoire. Au niveau spirituel, il y a eu un réveil. Hein? Dans deux ans, en 2017, on va fêter les 200 ans du premier réveil de Genève. Si on accepte la réforme, on va y venir à la réforme. C'est un réveil très important avec des gens comme César Malan, Merle d'Aubigny, Louis Gossen et d'autres encore, qui vient secouer un petit peu les églises protestantes, hein, qui à ce moment-là étaient en train de interdisaient même de lire la parole de Dieu, hein, la Bible. Donc là, la parole de Dieu est remise au goût du jour. Donc ça, c'était il y a 200 ans, à Genève. Si on remonte dans le temps, il y a 500 ans, qu'est-ce qui se passe il y a 500 ans? Là, vous pouvez mêler histoire et spirituel. C'est... Là, on est dans 1517, la réforme. Donc là, en 1517, en octobre, sauf erreur, j'ai noté ça quelque part, 31 octobre, Martin Luther, un moine, il placarde les 95 thèses, ces 95 thèses sur l'église de Wittenberg. Et voilà, ça donne naissance à tout ce mouvement de réforme de l'Église et aussi de la société. Voilà, moi je viens de lire cette semaine, c'est pour ça que c'est tout frais, un livre assez court là, qui parle des trois réveils de Genève. Et puis et c'est assez fascinant de voir l'œuvre de Dieu au cours du temps. Si on remonte encore le temps, et là on va remonter de beaucoup, on arrive à il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, 3100 ans. Qu'est-ce qui se passe? Maël, ben là tu fais moins 3100. On est à moins 1000, moins 1000, moins 1100. Ok? Bon là il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais on va lire un des passages dans la Bible. On va voir un moment clé aussi dans l'histoire du peuple d'Israël, où il y a un réveil. Il y a un réveil. Si je vous dis, pour préciser un peu ce qu'on va lire ensemble, Ichabod. Vous savez ce que c'est, Ichabod? Hein? Élie, donc Élie lequel? Le premier, Élie premier. Élie sans E, hein, donc c'était pas le prophète, c'était plutôt le souverain sacrificateur, on va dire. En fait, c'est un temps, on appelle ça la période des juges. Et pendant cette période des juges, au fait, donc le pays est maintenant, Israël est installé maintenant dans le pays de Canaan. Et il y a une succession de juges qui font office, on va dire, de rois, hein, sur Israël. Il n'y a pas encore de roi de ce temps-là. Et la période d'Élie, c'est une période où on voit que le peuple est retourné dans une certaine idolâtrie. D'ailleurs, même les fils d'Élie, de cet Élie, c'est les sacrificateurs de ce temps-là. Ils font un peu n'importe quoi, hein. Ils rendent un culte vraiment pour leur propre intérêt. Ils reçoivent la viande, ils prennent les meilleures parties, ils couchent avec les femmes à l'entrée. Enfin voilà, c'est des trucs un peu... On voit qu'il y a une déchéance morale et spirituelle. Et à un moment donné, et bien sûr, il y a cette opposition, cette guerre avec les Philistins. Hein, ils se battent avec les Philistins. Et à un moment donné, pour une bataille, ils se disent, ils ont la super idée suivante, c'est qu'ils se disent, ben, pour gagner la guerre, on va apporter l'arche de l'Alliance sur le champ de bataille. Vous vous souvenez de ça? Donc un peu comme un porte-bonheur. Hein, ils se disent, on va l'emmener, et puis ça va nous faire gagner... un symbole. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une défaite cuisante ce jour-là. Beaucoup d'Israélites sont tués. L'armée est mise en déroute. Les enfants d'Eli, justement, meurent au combat aussi. Et puis l'arche est prise. Et c'est après qu'il y a, la femme d'un des fils d'Eli accouche. Et elle appelle l'enfant Ichabod, qui signifie « la gloire est bannie d'Israël ». Et Ichabod, peut-être on reviendra, parce que c'est quelque chose de marquant dans l'histoire de l'action biblique, parce que le fondateur va écrire aussi une petite brochure au moment du réveil sur Ichabod. Donc la gloire est partie, l'arche est partie. Et ce qu'elle contenait. Donc tout cela est relaté dans 1 Samuel 5 et 6, Les Philistins récupèrent l'arche, la mettent dans un temple, et peut-être vous vous souvenez de cet incident, hein, ils la mettent dans le temple du dieu Dagon, et pendant plusieurs jours de suite, ils voient Dagon qui est tombé en avant, devant l'arche. Hein. Et puis il y a aussi une succession, donc la statue, hein, et il y a aussi une succession de fléaux qui s'abattent sur les Philistins. Donc des maladies, des tumeurs cancéreuses, etc. Et puis les Philistins, ils se disent « Waouh, en fait, nous, on veut pas trop ça. » Donc ils se refilent l'arche, et partout où elle passe, c'est ce qui arrive. Et après, ils se disent « Bon, on va la renvoyer en Israël, et sur le territoire d'Israël. » Et sur le territoire d'Israël, vous vous souvenez de ce qui se passe à ce moment-là? Ils sont tout contents, hein, ils la reçoivent avec joie, elle arrive toute seule, hein, sur des... Je crois que quelqu'un avait prêché sur ça peut-être il y a un ou deux ans ici. Donc elle arrive sur cet attelage-là, toute seule, dans cette ville. Et puis les habitants sont tout contents de la voir. Ils regardent cette arche. Et puis, là aussi, il y a un fléau qui s'abat sur eux parce que... Parce qu'il l'accueille avec joie, mais finalement, je vais y revenir tout à l'heure, hein, mais l'arche n'était pas faite pour être juste contemplée comme quelque chose, un objet de curiosité. Et donc là, il y a 70 hommes qui perdent leur vie. Donc il y a une crainte, hein, qui s'installe avec tout cela. Donc les habitants de cette ville ne la conservent pas, ils se disent « bon, on va la refiler encore ailleurs ». Ils la refilent à une autre ville, et c'est là que nous allons lire le récit. C'est dans 1 Samuel 7. Après cette longue introduction, nous pouvons lire 1 Samuel 7. Alors, on va lire l'ensemble du chapitre, bien qu'après, on va surtout se concentrer sur les premiers versets. Les habitants de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années avaient passé. Alors, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai pour vous. » Ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel ». Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins, et il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis il revenait à Rama, où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et donc, nous voyons dans ce passage, au fait, un retour au Seigneur. Un retour au Seigneur. Ce texte nous parle de l'arche, bien sûr. Hein, je vous ai donné un bref récapitulatif des chapitres qui ont précédé tout à l'heure. Et l'arche, finalement, c'était quoi? L'arche, c'était un coffre, hein, simplement un coffre en bois. Et il symbolisait quoi? Il symbolisait la présence de Dieu. Donc l'arche, il était, en temps normal, était entreposée dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Ensuite, elle sera entreposée dans le temple. Et là, on voit que contrairement aux autres localités, chez les Philistins, à Beth-Shemesh, c'est là où ils avaient regardé l'arche, où Dieu avait tué 70 hommes. Contrairement à ces autres localités, les habitants ici de Kirjat Jearim, ils prennent très au sérieux cette arche. Ils prévoient même un endroit pour la garder, j'allais dire la stocker, la garder, et quelqu'un qui va la garder. Hein, ce fameux Abinadab. Et donc, il trouve un lieu d'accueil et il y a du respect. Et puis, en apparence, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Le texte nous dit simplement, au verset 2, 20 années sont passées. Et puis, tout d'un coup, le verset 2 continue. Alors, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Tout d'un coup, le peuple crie à l'Éternel. Tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a un réveil, là. Ils étaient endormis et ils se réveillent. Ils crient vers l'Éternel. Et se rendent compte de son besoin de Dieu. Alors, Samuel, entre-temps, qui était devenu le nouveau juge, qui est un prophète de Dieu, hein, Il répond un petit peu à ce besoin du peuple de revenir à l'Éternel. Et il leur dit, ce verset 3, hein, si nous relisons ce verset 3, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Et on voit qu'après cette réponse de Samuel, le peuple, il se conforme à ce que Samuel a dit. Alors, dans ce texte, nous avons plusieurs éléments clés dans un processus de réveil. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant de le voir ensemble ce matin ensemble. Ça faisait 20 ans que l'arche était là, gardée, peut-être oubliée. Et ça fait encore bien plus que le peuple d'Israël vit dans une certaine idolâtrie. Même les prêtres, même les sacrificateurs sont loin d'être exemplaires. Et après ce temps, ça bouge. Et ça m'a fait penser, parfois dans nos vies, on a aussi besoin de temps. Parfois, il faut du temps pour que les choses bougent. Parfois, on peut être endormi. Et parfois, c'est l'heure du réveil. Le processus qui est indiqué dans ce texte, c'est un peu une trilogie pour se réveiller. Donc la première étape de cette trilogie, simplement, c'est que le peuple crie à Dieu. La deuxième étape, c'est qu'ils reviennent au Seigneur de tout leur cœur. Et la troisième étape, c'est qu'ils confessent leurs péchés. Et la suite va nous montrer que, suite à ces trois étapes, le Seigneur va intervenir puissamment pour le peuple, en faveur du peuple. Alors j'aimerais simplement et assez rapidement reprendre ces trois étapes de cette trilogie. Le peuple crie à Dieu. Il y a une prise de conscience. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout à coup on a l'impression que le peuple se réveille et en se réveillant, il crie, il gémit. Hein, ça m'a fait penser aussi Nicolas pendant ses 4-5 premières années de sa vie. Tous les jours, il se réveillait en pleurant, mais tous les jours, hein, que ce soit sieste, le matin, ça m'a rappelé ça. Là, on a l'impression, tout d'un coup, il se réveille, le peuple, et il se dit, il y a quelque chose là. il prend conscience. Et dans tout réveil spirituel, il y a ce cri, ce besoin exprimé de Dieu. Pendant 20 ans, il ne se passe pas grand-chose, mais soudain, le peuple se réveille. On a besoin de Dieu, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça m'a fait penser que pour que les choses bougent dans notre vie, on a aussi besoin de cette même aspiration, de ce même désir. On ne peut pas s'attendre à ce que les choses bougent à notre place. C'est un désir qui doit venir de notre cœur. On doit reconnaître notre besoin de Dieu, désirer nous rapprocher de lui. Il y a un chant qu'on chante assez souvent. « Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, ainsi ô mon âme soupire après toi. J'ai soif de toi. » Et après, je ne me souviens plus exactement des mots, « d'être là devant toi. J'ai soif de toi, mon Dieu. » J'ai soif de Dieu. Et ça, c'est un prérequis à tout réveil. Il faut avoir cette soif de Dieu. Alors, désolé, hein, c'est un dicton populaire un peu simple, mais vous connaissez. Hein, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Hein. Alors, je ne vous traite pas d'âne, hein, surtout pas. Mais il est très parlant, parce qu'il faut avoir soif quand on vient vers le Seigneur. Si on veut que le Seigneur se manifeste dans notre vie, il faut avoir cette soif. Il faut être finalement à une certaine détresse même, où on se dit, j'ai besoin de toi, je crie vers toi, je gémis vers toi. Et la question que je vous pose, est-ce que vous avez soif de Dieu? S'il n'y a pas cette soif, vous pourrez venir ici autant de fois que vous voulez, vous pouvez faire autant d'efforts que vous voulez, il ne se passera pas grand-chose dans votre vie. Et j'aimerais encourager à tous ceux qui ont soif, ou tous ceux qui veulent avoir soif, comme le dit l'Évangile, d'aller dans votre chambre, de vous mettre à genoux et de prier. Que Dieu intervienne dans votre vie. De crier à Dieu. Première étape, la trilogie. Le peuple gémit. Il crie à Dieu. Deuxième étape, hein, c'est le verset 3, c'est de revenir à Dieu de tout notre cœur. Le peuple revient à Dieu de tout son cœur. Et finalement, c'est ce que Dieu attend de nous, hein, c'est qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Et s'il n'y avait qu'une chose à retenir ce matin, c'est celle-là, hein, l'importance de revenir à Dieu de tout son cœur. Et donc tout réveil historique, c'est ce qui se passe. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans, c'est ce retour au Seigneur de tout notre cœur. Dieu ne veut pas qu'on fasse plus, il ne veut pas qu'on fasse mieux, il veut qu'on revienne à lui. Voilà, ça nous déculpabilise. Vous ne sentez pas culpabilisé, hein, avec cette question du réveil. Dans cette question du réveil, il faut imaginer Dieu qui est là et qui dit « Moi, j'attends que mon peuple revienne à moi. » Et comment est-ce qu'on peut revenir à lui? Parce que vous vous dites « Voilà, en théorie, je suis d'accord, ça semble bien. Dieu m'attend. » Le texte nous donne deux indices. Hein, les deux indices qui sont dans le texte, enfin c'est deux indices même de disposition, pourrait-on dire. Donc par la bouche de Samuel, il est dit « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Donc la première recommandation ou injonction, c'est d'enlever les idoles. Donc on se souvient, le peuple, il est dans une période de profonde idolâtrie. Hein. Je ne vous fais pas un dessin par rapport à ce que ça pouvait signifier, mais c'était un culte de ces idoles, c'était des pratiques immorales, etc., etc. Et finalement, c'était toutes des choses qui prenaient la place de Dieu. Et nous, on a le même encouragement aujourd'hui, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est d'enlever les idoles dans notre vie, faire de la place. Après une période d'endormissement, c'est enlever les idoles dans nos vies. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Et ce qui se passe, c'est que dans notre vie terrestre, il y a régulièrement des choses qui viennent et qui veulent prendre la place du Seigneur. Ça peut être des choses matérielles. Ça peut être lié au confort, lié à une carrière. Ça peut être effectivement plus des choses en termes d'ambition, de pouvoir, de vie professionnelle, trouver sa valeur aussi dans quelque chose d'autre que notre relation avec le Seigneur. Voilà, c'est toutes des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et qu'est-ce qui, en ce moment, prend la place du Seigneur dans ma vie? C'est quoi la première chose à laquelle je pense en me réveillant le matin? C'est quoi la chose qui m'anime dans mes journées avant le Seigneur? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont légitimes, mais elles deviennent illégitimes quand elles prennent la place du Seigneur dans nos vies. Ça, c'est une idole. Et donc l'encouragement qui est fait au peuple à ce moment-là, enfin c'est pas non, justement c'est une injonction, c'est il faut enlever tout ça. Pour eux c'était flagrant. Et pour nous c'est aussi flagrant, sauf qu'on s'en rend plus compte. Je pense peut-être pour eux c'était même pas flagrant, ils se disaient bon voilà, l'arche elle est là, enfin on a un autre dieu, on a d'autres dieux, pourquoi pas. Et peut-être si on se dit que c'est pas si flagrant que ça, c'est que notre conscience a été bien, vous savez, bien endormie, et puis on se rend pas compte. Mais devant le Seigneur, on peut lui demander « Quelles sont les idoles dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui prend ta place en ce moment dans ma vie ?» Où est-ce que je cherche ma valeur? Où est-ce que je cherche ma satisfaction? Et Samuel dit « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers. » Il y a une prise de conscience là qui est forte, qui est radicale. Une démarche de cœur, c'est pas juste une pratique pieuse, c'est pas juste une prière, mais c'est quelque chose de fort, de radical. Et le deuxième aspect de comment revenir au Seigneur de tout son cœur, c'est de le servir. C'est marqué « Servez-le lui seul ». Et donc le service du Seigneur, c'est une conséquence logique. Dans une épître, hein, ça m'a rappelé ce passage, 1 Thessaloniciens 1, il est dit, Paul, il félicite les Thessaloniciens, il dit, j'ai entendu dire comment vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu unique. Hein, je ne sais plus l'expression exacte, on pourrait la retrouver. Le Dieu vivant est vrai. Voilà, c'est ça l'expression. Et donc ici, c'est un peu la conséquence logique. On enlève les idoles et on se met au service du Seigneur. Et je ne vais pas trop développer hein, ce matin pour une question de temps, mais le service se fait déjà en servant nos frères et sœurs. Dieu nous a donné des dons. Servir notre entourage, servir le Seigneur, c'est servir les autres. Une petite pensée aussi pour Temps Libre, hein, qui se rassemble cet après-midi. Hein. Servir le Seigneur par ce moyen, c'est très beau aussi. Donc cette dimension du service, de se mettre en action pour le Seigneur. Voilà, c'est le deuxième volet de la trilogie, s'approcher du Seigneur de tout notre cœur. Et le troisième aspect dans ce processus de réveil. Donc, peut-être juste relire le verset 4. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astarté, donc leurs dieux, et ils servirent l'Éternel seul. Hein, ils s'y mettent. Et ensuite, donc, le troisième aspect, on le voit au verset 5 et 6. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Maël, t'es toujours avec nous ? Super. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, Maël ? Je l'ai eu encore, Maël, donc j'ai l'habitude de... Je sais pas. Ils ont confessé leur péché. Ils ont confessé le péché. Publiquement même. Hein, parce qu'ils étaient rassemblés. Ils vont devant le Seigneur et ils disent « Nous avons péché contre l'Éternel. » Donc devant le Seigneur, il y a une humiliation. Il y a une reconnaissance publique qu'ils étaient sur une fausse route. Qu'ils avaient fauté, qu'ils avaient péché. Donc on voit ici un peu cette trilogie, hein. Si on récapitule, premier aspect, crier au Seigneur, deuxième aspect, s'approcher de lui de tout notre cœur, revenir de tout notre cœur au Seigneur, et le troisième aspect, c'est la confession des péchés. Alors j'aimerais vous demander, pourquoi est-ce que ça marche, ou comment est-ce que ça marche? Parce que jusqu'à présent, Dieu il est très silencieux hein, dans ce passage. Il est pas dit, enfin Samuel parle, c'est de la part de Dieu, mais on ne voit pas Dieu qui parle. D'ailleurs, un peu plus tôt dans Samuel, c'est marqué au chapitre 3, « La parole de l'Éternel était rare à cette époque. » Mais Dieu semble un petit peu absent jusqu'à ce stade-là. Donc l'arche a été mise de côté. Donc le peuple, il y a un élan de réveil qui est là. Mais comment est-ce qu'on sait que ça marche et que c'est le bon moyen? Alors si je reviens justement à cette arche, cette fameuse arche, elle symbolisait quoi? Elle symbolisait la présence de Dieu. Et comment est-ce qu'on accédait à cette arche en temps normal, dans le tabernacle, par exemple, à ce moment-là? Ben, pour accéder à l'arche, il fallait passer par l'autel des sacrifices. Et encore, ce n'était pas tout le monde hein, qui pouvait accéder à l'arche. Hein, c'était une fois par année, le souverain sacrificateur. Mais il fallait absolument passer par l'autel des sacrifices. Et dans cette histoire, dans Samuel 7, c'est assez fascinant parce qu'il nous a aussi parlé d'un sacrifice. Et je vous propose de lire maintenant les versets 7 à 10. « Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Donc au verset 9, on voit que Samuel fait un sacrifice d'un tout jeune agneau, l'animal le plus innocent, le plus pur qui pouvait être. Et ce sacrifice nous éclaire. Parce qu'il nous dit comment est-ce qu'on peut obtenir la présence de Dieu, comment est-ce qu'on peut accéder au Seigneur, comment est-ce que je peux revenir à lui de tout mon cœur. Est-ce que c'est juste une action de ma part? On voit par exemple les habitants de l'autre ville, ils avaient été, puis ils avaient été frappés, les Philistins, voilà, ils avaient aussi été frappés. Ici, on voit que l'arche, c'est un peu comme l'évangile dans l'Ancien Testament. C'est exactement le même principe. C'est que personne n'est juste. L'évangile nous dit même pas un seul. Donc c'est impossible de s'approcher de cette arche. Sinon, on va être frappé. Il y a des fléaux. Hein, ça montre ça aussi, hein, cette histoire de l'arche. L'arche, elle a détruit les Philistins. Elle a détruit même les personnes de bien, hein, qui voulaient juste s'approcher de Dieu, voir. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait l'arche? Ben pour parler à la fois de la séparation qu'on a de Dieu, hein, ce qui nous sépare, le fossé qui nous sépare de Dieu, mais aussi de l'amour de Dieu. Et puis elle nous montre aussi comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu. Comment est-ce qu'on peut revenir au Seigneur de tout notre cœur? Et pour s'approcher de Dieu, ici nous dit ce passage, mais il est confirmé par le Nouveau Testament, c'est qu'il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. L'Évangile nous dit que l'homme, il a fait du mal à Dieu. Il a péché contre Dieu. Quand quelqu'un nous fait du mal, c'est quoi les réactions qu'on peut avoir, nous? Maintenant, je reviens à un plan individuel. C'est quoi les réactions? Il y a deux réactions. Il y a une, c'est la vengeance ou la haine, le non-pardon, enfin voilà, tout ce qu'on veut, en tout cas le non-pardon. Donc là, on se venge sur l'autre et puis on dit, il m'a fait souffrir, je le fais souffrir, il n'y a pas de raison. C'est normal, il l'a mérité. Mais ça ne rétablit pas la relation, hein. On est d'accord. Au contraire, la haine persiste, ça c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est quoi? Si quelqu'un nous a fait du mal, admettons que c'est un mal unilatéral qui nous a été fait, ben, c'est de lui pardonner. Et si on lui pardonne, là c'est qui souffre? Là c'est nous, hein, parce qu'on nous a fait du mal, en plus on remet la dette à l'autre, et c'est douloureux. C'est douloureux. Mais par contre, le bénéfice, c'est quoi? C'est que la relation est restaurée, il y a la paix qui est de nouveau là. Dieu va devoir souffrir pour nous pardonner. On avait fait du mal à Dieu, on avait été rebelles contre Dieu, on a été idolâtres. Et ce qui se passe, c'est que à la croix, Dieu va souffrir pour nos péchés, pour nous pardonner. Il choisit l'option réconciliation. On ne l'aurait pas mérité, hein. Enfin, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de souffrir et de nous pardonner. Mais à la croix, donc Jésus souffre et il porte nos péchés. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est rentré une fois pour toutes dans le lieu saint, grâce à son sacrifice vivant. Alors je lis juste ce passage dans Hébreux 10. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour les péchés, hein, comme on a vu dans Samuel 7. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors le temps nous manque, hein, de commenter ça, mais c'est énorme, hein, les parallèles qu'il y a entre 1 Samuel 7 et Hébreux 10. Là, on voit qu'il y a un accès qui est possible. On voit qu'on peut s'approcher, hein, Jean-Pierre le cite en introduction, avec un cœur sincère, purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On voit aussi que les Israélites qui répondent de l'eau, hein, devant le Seigneur. Donc il y a des parallèles assez incroyables entre cette histoire d'un Samuel 7 et Hébreux 10, qui nous montrent que nous avons besoin du sacrifice de Jésus pour nous approcher de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je conclue. Ce texte nous encourage à crier à Dieu. On l'a vu déjà à plusieurs reprises. À revenir à Dieu de tout notre cœur et à confesser notre péché. C'est la dynamique d'un réveil. Et peut-être vous pouvez vous dire, voilà, moi je suis converti de longue date, je crois ces choses-là. Mais un réveil, c'est quoi ? C'est pas pour des, premièrement pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour des gens qui connaissent le Seigneur et qui sont endormis. C'est des gens qui ont besoin de se réveiller, c'est des gens qui ont besoin de revenir au Seigneur. On peut se réveiller que si on est déjà vivant. Si on est mort, on ne peut pas se réveiller. On reste mort. Et c'est intéressant de voir les différentes réactions qu'il y a face à cette arche. Donc la première réaction, bon, on ne l'a pas lu, mais je l'ai cité tout à l'heure, c'est les Philistins. Les Philistins, eux, ils refusent l'arche. Ils se disent non, plutôt que de s'intéresser à Dieu, ils se disent non, on voit tout ce que ça fait, donc on va la renvoyer, cette arche. La deuxième réaction, c'est de ces habitants de la précédente ville, de Beth-Shemesh, qui l'accueillent avec joie, mais il n'y a pas de respect, il n'y a pas de soumission, ils ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe, et donc ils se font aussi frapper. Mais c'est une deuxième réaction. La troisième réaction, c'est celle que nous avons lue, donc à Kirjat Jearim. Et bien là, on voit qu'il y a un respect, mais il y a presque une indifférence, hein, parce qu'on la met bien de côté hein, pendant 20 ans. Ils le mettent au placard. Et ils la mettent au placard. Et moi, j'aimerais nous encourager à une dernière réaction. Hein, c'est celle du peuple d'Israël, par la suite. La dernière réaction, c'est de retourner à Dieu. De revenir à Dieu de tout notre cœur. Retourner dans la présence du Seigneur. Pas seulement considérer ça comme le jour de notre conversion. On a eu accès au lieu saint. Hein, par Jésus, mais c'est que cet accès au lieu saint, nous l'avons tous les jours, nous l'avons en permanence. Peut-être que nous devons confesser hein, aujourd'hui même notre péché. Nous devons crier au Seigneur, nous devons revenir à lui, revenir dans la présence du Seigneur. Paul Rank, certains connaissent, j'ai vu une situation, il dit « Ce dont a besoin l'Église aujourd'hui, c'est un réveil. Notre société hyper matérialisée a besoin d'abandonner toutes ses idoles pour revenir auprès de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie en Christ doit être intense, à l'image de celui qui s'est sacrifié sur la croix. » Donc c'est une réalisation que tout cela, comment cela est possible ? C'est le sacrifice de Jésus. Hein ? C'est pas seulement de crier au Seigneur, c'est pas seulement d'essayer de revenir à lui, c'est pas seulement même confesser le péché, mais c'est de revenir à Jésus. Jésus qui nous permet cet accès à Dieu. Et le résultat, le final, c'est quoi ? C'est qu'on voit l'intervention de Dieu. Verset 10. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins. L'intervention de Dieu, boum. Les ennemis s'enfuient. Il y a une période de prospérité ensuite en Israël. Et c'est aussi pour nous encourager. Revenons au Seigneur. On se débat avec nos ennemis. Je ne sais pas vous. Hein. On se débat avec nos peurs, avec nos craintes, avec nos idoles. Et puis là, le Seigneur il est en train de nous dire « Revenez à moi. Confessez vos péchés et moi je vais intervenir pour vous. » Vous savez ce qui vous oppresse ? Ben moi, je vais les chasser. Moi, je peux faire gronder mon tonnerre sur vous. Enfin, sur vos ennemis, surtout. Et tout ça grâce au sacrifice de Jésus, qui nous délivre de l'oppression de notre péché et de l'oppression de l'ennemi. Jésus est vainqueur. Et je propose qu'on prie encore ensemble. Seigneur, ce texte nous a projeté il y a 3000 ans, même un peu plus, et nous encourage encore à nous réveiller. Le peuple d'Israël s'est réveillé à ce moment-là, il a crié à toi. Et Seigneur, je te prie que ce soit déjà la première démarche dans nos vies, que nous puissions avoir envie de toi, soif de toi, que nous puissions revenir à toi de tout notre cœur en laissant les idoles, en confessant notre péché. Seigneur, c'est toi aussi qui peux mettre ce désir dans notre cœur et nous voulons te le prier ce matin même. Et je te prie ici pour chacun qui est dans cette salle, tous ceux qui ont ce désir-là, qui puissent aussi en ce moment même prendre cette décision dans leur cœur de revenir à toi. Nous avons besoin de ton intervention, de ta libération aussi. Seigneur, continue ton œuvre dans nos vies, dans ma vie, dans notre Église, dans notre pays aussi. Au nom de Jésus, amen.